Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous parlerons du bac, dont les épreuves commencent aujourd'hui, et de l'appel à la grève de la surveillance, lancé par plusieurs syndicats de l'éducation nationale. Ils protestent contre la réforme de ce bac qui s'appliquera dès 2021, mais l'examen ne devrait pas être trop perturbé. Nous irons à Lampedusa en Italie, où malgré les déclarations de leur vice-premier ministre, les pêcheurs de l'île continuent de porter assistance aux personnes traversant la Méditerranée. Et puis en Argentine et en Uruguay, 48 millions de personnes se sont retrouvées dans le noir total à cause d'une panne d'électricité géante dont on ne connaît pas les causes pour l'instant. Les épreuves du baccalauréat 2019 commencent donc aujourd'hui dans une version qui n'existera plus en 2021. Cette réforme du bac inquiète d'ailleurs certains personnels de l'éducation nationale, dont une partie appelle à la grève de la surveillance des épreuves ce lundi. Le ministre de l'éducation nationale se dit confiant, il promet que tout se déroulera normalement. Certaines académies ont appelé du renfort en cas de besoin. Les syndicats appelant à la mobilisation dénoncent, eux, un futur bac dont la valeur, pense-t-il, dépendra du niveau du lycée dans lequel les élèves le passeront. Il laissera plus de place au contrôle continu et verra la fin des filières générales comme on les connaissait jusqu'à maintenant. Du côté de l'UNSA Éducation, même si l'on partage ses inquiétudes, on n'appelle pas à la grève ni au blocage pendant les épreuves pour ne pas pénaliser les élèves. Écoutez Stéphane Crochet, secrétaire général du SE UNSA.
Nous sommes en désaccord sur cette modalité d'action. Nous travaillons toute l'année avec nos élèves à la préparation de cet examen. Nous travaillons plus précisément depuis plusieurs jours à les détendre, à les préparer, donc ils ne souhaitent pas mettre la moindre inquiétude sur ce moment si important pour eux. Pour l'UNSA, ce n'est pas la bonne modalité d'action pour dire ce que nous avons à dire sur la réforme du lycée, sur la réforme du bac qui se prépare et se mettra en œuvre à la rentrée prochaine. Nous avons multiplié les modalités d'action, mais aussi les interventions directes auprès du ministre. Nous espérons toujours faire bouger un certain nombre de sujets, mais nous ne voulons pas toucher aux examens.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. 743 000 candidats plancheront aujourd'hui. Le plus jeune a 11 ans, le plus vieux 77 ans. Eux n'ont pas encore passé le bac, mais ils commencent aujourd'hui leur service national universel. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Ce SNU débute donc dans 13 départements avec 2000 jeunes volontaires de 15 à 16 ans, encadrés par 450 adultes. Ils passeront deux semaines ensemble pour s'éveiller à la citoyenneté et à l'engagement. Le principe, chaque département accueille des jeunes venant d'autres territoires. Claire Chaudière s'est rendue dans l'Eure à la veille du grand départ.
Cela fait des mois maintenant que Noël David, en seconde à Évreux dans l'Eure, attend ce moment.
Là, ça a vraiment commencé. On va rentrer dans le vif du sujet, on va dire. On va voir à quoi ça ressemble réellement.
Ce lycéen inscrit dans un club de foot et qui aimerait en faire son métier a tout de suite été séduit par le projet.
J'ai toujours été intéressé par ça, quelque chose de militaire, quoi. Le sport, aider les autres dans un endroit qu'on ne connaît pas.
Sur la table du salon, l'uniforme qu'il portera pendant deux semaines, bleu marine, plus proche du code couleur de la police que du treillis vert kaki.
Là, ça montre qu'on est tous sur le même piédestal. On va se mélanger, on va apprendre à connaître les autres. Ça pourrait être favorable pour tout le monde. Hein.
Noël David, qui a donc rejoint hier soir la Creuse en train, alors que 150 autres jeunes sont eux arrivés à Évreux, où un important programme les attend.
Nous allons aller au mémorial de Caen.
Valérie Bonne est la chef de centre.
Et visiter les plages du débarquement. Il y a un module d'autodéfense. Visite à Giverny, séquence importante sur la défense nationale. Les jeunes en fait sont répartis en maisonnées de 8 à 12 jeunes.
Levée du drapeau et marseillaise dès 7h30 pour démarrer chaque journée. Objectif pour les encadrants, laisser à l'issue de ces deux semaines bien plus qu'un simple souvenir gravé dans les mémoires.
De susciter un engagement vis-à-vis de la société.
Sans tomber dans le piège de la nostalgie du service militaire et tenter de convaincre au passage l'ensemble des organisations lycéennes encore très sceptiques face à ce nouveau dispositif.
Claire Chaudière, ils sont à peine sortis de la campagne des européennes que les partis français s'engagent dans celle des municipales et notamment le parti présidentiel LREM qui va présenter ce midi les premières investitures en vue de 2020. Hier, c'était le Rassemblement national qui réunissait ses troupes à La Rochelle. Marine Le Pen a expliqué vouloir présenter des listes dans tous les départements et le parti se dit prêt à discuter, voire à s'allier avec des élus, les Républicains. Pour faire le lien entre les deux formations, le nouvel eurodéputé RN, ex-Les Républicains, Thierry Mariani. Il était hier soir l'invité de la rédaction.
Notre objectif, c'est de faire des alliances. Vous savez, M. Macron nous montre l'exemple depuis longtemps, même s'il nous explique que la vieille politique, ça ne concerne pas. Franchement, agir, c'est quoi si ce n'est les anciens LR qui rejoignent M. Macron. On vit dans un schéma qui a été défini du temps de Mitterrand, Chirac et Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, les choses sont plus du tout les mêmes. Le Front National s'est réformé, c'est le Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen a passé la main. Je crois que Marine Le Pen a une attitude vis-à-vis, par exemple, du racisme qui est totalement incontestable. Et donc aujourd'hui, cette ligne infranchissable n'a en réalité plus aucune raison d'être. Donc ce qu'on dit tout simplement aux sympathisants de droite, c'est aujourd'hui, rejoignez-nous, parce que sur certains sujets, on est exactement sur les mêmes positions.
Thierry Mariani, interrogé par Mathieu Laurent. Il ne désarme pas. Encore ce matin, des centaines d'opposants hongkongais sont toujours debout et bloquaient encore il y a quelques minutes une artère principale de la ville au lendemain d'une manifestation monstre qui a rassemblé 2 millions de personnes sur les 7 millions que compte Hong Kong. Ils réclament toujours l'annulation du projet de loi gouvernementale sur les extraditions vers la Chine et la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif. Cette dernière a dû s'excuser hier pour avoir provoqué des violences et semé le trouble. Le projet de loi contesté a été suspendu, mais les manifestants réclament donc son retrait pur et simple. Le militant pro-démocratie Joshua Wong, héros de la révolte des parapluies de 2014, a quant à lui été libéré de prison, on l'a appris ce matin, et il a appelé dès sa sortie à la démission de Carrie Lam. Nous y reviendrons largement dans les journaux de 7 et 8 heures. Retour en Europe à Lampedusa, en Italie, où malgré les déclarations du vice-premier ministre italien, l'île continue d'accueillir des personnes fuyant leur pays. Matteo Salvini répète en effet depuis un an que les ports italiens sont fermés aux migrants, que personne ne débarque plus en Italie. Lampedusa, qui reste marquée par un terrible naufrage en 2013 durant lequel 366 femmes, hommes et enfants sont morts, Lampedusa donc avait voté en majorité pour la Ligue de Matteo Salvini, mais ses habitants continuent bien d'assister et de recevoir les rescapés de la Méditerranée. Un devoir, presque une obligation pour les pêcheurs de l'île. Écoutez ce reportage sur place de Julie Pietri.
Une barque minuscule est amarrée dans le port de Lampedusa. Bleue, blanche, écaillée, une coquille arrivée de Libye. À bord, transférée rapidement et silencieusement vers un centre d'enregistrement, une vingtaine d'hommes, de femmes et un bébé de 7 mois, accueillis par Francesco Bouchard de l'ONG Espoir Méditerranée.
Le bébé avait l'air mieux que les autres personnes, très fatigué, carencé, comme s'il avait compris que la situation était critique et qu'il cherchait à ne pas l'aggraver.
Si les arrivées ont chuté en quelques années, le maire de Lampedusa, Toto Martello, a recensé 3500 personnes l'an dernier et près de 1000 cette année.
Le ministre devrait avoir le courage de dire la vérité aux gens. À Lampedusa, le port n'a jamais été fermé, comme aucun autre port en Italie, je crois d'ailleurs.
L'île s'est fortement abstenue lors des dernières élections européennes, mais la Ligue est arrivée en tête. Lampedusa, réputée accueillante, se serait-elle raidie ? Piero Bilecci, président des pêcheurs de l'île, fait signe que non.
Nous donnons la première assistance et les gens sont ensuite transférés. L'île est très petite. Si tous les migrants arrivés ici étaient restés, non, c'est impensable. Mais nous offrons le salut à beaucoup d'entre eux et nous sommes fiers de le faire. On devrait donner un prix pour chaque personne que l'on sauve, pas une amende à payer.
Un reportage de Julie Pietri. L'Argentine et l'Uruguay plongés dans le noir hier. 48 millions de personnes se sont réveillées sans électricité à cause d'une déconnexion totale du système électrique dans une centrale hydroélectrique à la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay. Pendant au moins 6 heures, les Sud-Américains ont été coupés du monde avant que l'électricité revienne petit à petit. Les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
À 7 heures du matin hier, une alerte a été détectée dans le système électrique au nord-est de l'Argentine, non loin du barrage et de la centrale hydroélectrique de Salto Grande, point d'interconnexion électrique entre l'Argentine et l'Uruguay. Pour éviter que le système soit plus gravement endommagé, tous les ordinateurs se sont alors déconnectés automatiquement, laissant ainsi en un centième de seconde les deux pays, soit 48 millions de personnes, sans électricité. Une faille anormale et exceptionnelle, selon le secrétaire argentin de l'énergie, en particulier à cette époque de faible demande en énergie. À présent, une enquête est en cours. A priori, d'après le gouvernement, il n'y aurait pas eu d'intervention humaine ni de cyberattaque. Des millions d'informations enregistrées dans le système informatique vont être maintenant analysées. Les entreprises concernées doivent fournir un compte-rendu. Et dans 15 jours, on devrait en savoir plus sur les raisons précises de l'incident.
Caroline Vic, le temps de ce lundi, plutôt chaud et plutôt ensoleillé, de la Bretagne vers les Hauts-de-France. En passant par la Normandie, le ciel sera passagèrement nuageux. Quelques brouillards localement ce matin. Sur les Alpes et le Jura, le ciel sera nuageux ce matin avec en cours d'après-midi des averses orageuses. Les températures, elles, sont en hausse sur l'ensemble du pays, de 9 à 19 degrés au minimum. Comptez au plus chaud de 22 à 27 degrés sur la moitié nord, 25 à 30 degrés sur le sud jusqu'à 33 degrés en Provence.